Si le soleil ne revenait pas, chapitre 7. Je plante un clou, ça en fait 15. C'était de nouveau un dimanche. Follonier s'était dit « C'est demain qu'on doit descendre. Il faut que j'aille voir chez Arletaz si c'est toujours entendu. » La maison d'Arletaz, autrefois, était une des plus jolies du village. Il avait de l'argent en ce temps-là. Il avait aussi une fille qui venait bien en ce temps-là. Ce qui faisait qu'Arletaz était content. Il avait fait repeindre les contrevents de sa maison, et puis, quand Adrienne avait eu 17 ans, avait fait remettre à neuf la cuisine, des rideaux blancs bien propres et bien repassés, tenus relevés par des embrasses rouges, se voyaient à toutes les fenêtres. Tout le jour, la cheminée fumait gaiement son joli bleu qui se hâtait le long des pentes pour aller retrouver plus haut le bleu du ciel. « Aujourd'hui, c'est différent, » pense Follonier, en levant la tête vers les contrevents qui ne tiennent plus, et les vitres au premier étage sont cassées. C'est là qu'elle était. À présent, elle n'y est plus, et tout change. On n'avait même pas ouvert le chemin sur le côté de la maison. Il fallait passer par-dessus un gros tas de neige où des traces de pas faisaient une espèce de sentier. « Les choses changent !» C'est ce que pensait Follonier. Il heurte, on ne répond pas. Il s'y attendait. Si bien qu'après avoir heurté encore une fois, comme par acquis de conscience, il avait pesé sur la poignée sans plus de façon. En effet, Arletaz était là. On ne l'a pas distingué d'abord à cause de l'obscurité. Ce n'est qu'ensuite qu'on a vu la tache plus claire de sa figure se tourner lentement vers vous, et qu'il était assis devant une bouteille de gouttes et un verre, à une grande table couverte de toute espèce d'ustensiles de cuisine et d'écuelles sales, son chapeau sur la tête, car le feu était éteint. Il faut croire que Follonier avait l'habitude des lieux. Il s'est simplement avancé jusqu'à la hauteur d'Arletaz. « Ben, je vois que tu n'es pas prêt. Oh, c'est pas pressant, » a-t-il dit. Il s'est assis en face d'Arletaz, de l'autre côté de la table, puis a relevé le col de sa veste en disant « Il ne fait pas chaud chez toi. » Puis « Tu sais que c'est demain. » Alors Arletaz a dit « Quoi ? » ?»« Demain qu'on va chez le notaire, il nous attend, j'ai le papier. » « Ah, tu ne veux pas venir ?»« Que si, » dit Arletaz. « J'ai plus rien. »« Et les 100 francs ?» Arletaz montre la bouteille. « Alors, on a 10 000 francs. Tu m'en as avancé 100. Tu ne vas plus me donner que 900 francs, voleur ?»« 900 ?» dit Follonier. « 900 comptant, 900 sur la table. »« Voleur ! 900 en billets de banque ou en écus, comme tu voudras. »« Voleur !» « Je vois que tu n'es pas de bonne humeur ce matin. Mais si on descend, c'est ce que je voulais te dire. Il faudrait, puisqu'on descend, que tu t'arranges un peu. Il faudrait te raser. Et puis l'amant a une tondeuse. »« À quoi ça servirait-il ? » ?»« Bien sûr, ça ne sert à rien. Mais enfin, il y a le monde. Je me fous du monde. » »« Comme tu voudras. » Arletaz a rempli à nouveau son verre de gouttes, sans même penser à en offrir à Follonier, ce qui est une grande impolitesse. Et Follonier, « Alors, c'est entendu, je passe te prendre demain matin de bonne heure. » Seulement Arletaz ne semble pas avoir entendu. Il est de nouveau dans les nuages. Il regarde devant lui du milieu de sa grosse barbe où ses oreilles ont disparu. J'ai retrouvé sa lettre, tu te souviens? Je te l'avais montrée. Elle l'avait mise à la poste à Martigny. Il fouille dans la poche de sa veste et finit par en sortir une feuille de papier pliée en quatre, toute coupée aux angles. J'avais pas compris, disait-il. Tu te souviens, j'avais été la chercher chez sa cousine à Sion et elle n'y était plus. Eh bien, c'est quelque chose comme 3 mois après qu'elle me l'a écrite, cette lettre. Pourquoi est-ce qu'elle me l'a écrite ? Il avait relu. « Mon cher père, je vais bien, j'ai une bonne place. Je vous écris pour vous dire de ne pas vous inquiéter de moi. Je vous donnerai bientôt plus longuement de mes nouvelles. »«
Bête ! » disait-il. « J'avais pas compris. Une belle fille. Qu'est-ce qu'on peut en faire d'une belle fille ?»«
Ah ! » dit-il tout à coup. « Il vaut mieux dans ces conditions qu'elle disparaisse. »«
Et tout ! » dit-il. « Et toi, et moi. »
Et ça. Il montrait les murs et par les fenêtres les choses du dehors qu'on pouvait voir. Il a vidé son verre d'un coup, il hausse les épaules.
Ça ne fait rien, disait Follonier. Je viens te prendre demain matin. Ce sera quand même pour toi une bonne occasion de voir si tu ne la trouveras pas peut-être cette fois-ci. Si tu veux, on ira la chercher ensemble en sortant de chez le notaire.
Arletaz n'avait dit ni oui ni non. Ce qui n'empêche pas que le lendemain, au petit jour, les deux hommes s'étaient mis en route. À mesure qu'il faisait plus clair, l'accoutrement d'Arletaz étonnait davantage par le contraste que sa tenue offrait avec la netteté de la neige alentour. C'était effrangé, ça ne tenait plus. C'étaient deux vestes, l'une brune, l'autre noire, qu'il avait passées l'une par-dessus l'autre, et celle de dessus était plus courte que celle de dessous. C'était un pantalon déchiré au genou et un chapeau sans couleur qui tenait à peine sur sa tête, tellement ses cheveux étaient épais. Tandis qu'il s'était noué en guise de col un bas de femme autour du cou. Il marchait difficilement, ayant les pieds dans de vieux souliers presque aussi larges qu'ils étaient longs, couleur de pierre, lourds comme la pierre, durs comme la pierre, de sorte qu'il les traînait après lui, n'ayant pas la force de les soulever. Mais qu'est-ce que ça fait? Et à quoi ça peut-il servir d'être bien mis, puisque tout va s'en aller? Toi aussi, moi aussi, et puis elle. Mais enfin, la consolation est qu'on s'en ira ensemble, elle et moi, au même moment, tout d'un coup. C'est ce qu'il se disait en hochant la tête, les mains dans les poches, son bâton sous le bras. Ils étaient arrivés à Saint-Martin d'en bas. On leur disait « Où allez-vous ?
On va faire un tour. »
Et Arletaz avait déjà soif et aurait bien voulu s'arrêter à l'auberge.
« Juste le temps de boire un verre, » disait-il.
Mais Follonier, « Pas de ça, pas avant qu'on soit allé chez le notaire. Il faut que tu y vois clair pour signer. Si tu es sage, c'est moi qui te paie à boire à Sion, une fois qu'on aura fini nos affaires. »
Arletaz s'était arrêté devant l'auberge. Il y avait des enfants qui se moquaient de lui. Il criait « Hé, le moustachu !» en éclatant de rire. Et la barbichette !»
Puis, comme Follonier se tournait vers eux, ils se sont dispersés en tous sens, à grand bruit, comme un vol de moineaux. Arletaz avait fini par céder, Follonier l'ayant précédé sur le chemin, où ils ont rencontré, un peu plus bas, un camion qui les a amenés jusqu'à la ville. Là, ils avaient été chez le notaire. Arletaz ne disait plus rien. On l'avait fait asseoir à côté du pupitre où le notaire, l'acte en main, s'était mis à en lire l'énoncé de derrière ses lunettes, s'arrêtant longuement sur la somme à payer.
« 1000. Nous avons dit 1000. »
Arletaz n'avait pas bronché. Il avait dit seulement « J'aimerais qu'on me paie en petits billets. »«
Oh, on nous fera bien de la monnaie, » avait dit Follonier.
« Des billets de 50 francs et de 20 francs, je vais envoyer mon commis faire le change. Vous êtes d'accord? Voulez-vous signer ?»
Ils avaient signé l'un et l'autre.
Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues. Ils avaient bu, puis ils avaient mangé. Puis voilà que Follonier avait dit « À présent, veux-tu qu'on aille la chercher? Où est-ce qu'on va d'abord ?»
Arletaz ne savait plus. Il disait « J'ai déjà été partout, et il y a bien sa cousine, mais elle rit quand elle me voit venir. »
Il disait « Allons dans la rue. »
Puis il a dit « C'est moi qui paie à présent. Allons la chercher dans les cafés, parce qu'il y a les sommelières. » Ils avaient été dans les cafés, et Arletas disait aux servantes « D'où êtes-vous ? » Elle disait « Est-ce que ça vous regarde ?»« Oh, disait-il, c'est que j'ai ma fille, qui est, je crois bien, dans le métier. »«
Comment s'appelle-t-elle ? » ?»«
Adrienne Arletas. » »«
On ne connaît pas. »
« Une grande fille, oh, plus grande que vous, disait Arletas, et plus forte.
Oh, disait Arletas,
et puis bien plus belle que vous.
Espèce de malhonnête. »
Mais lui ne riait pas. 22 ans, elle aura justement 22 ans à la fin du mois. Si vous voulez voir son portrait. Il tirait de son porte-monnaie une pièce de 5 francs.
« Hein ? » disait-il.
« Vous voyez, c'est le gouvernement. Des cheveux qui faisaient 3 fois le tour de sa tête. Et grande, et forte, je vous dis, et de beau port. Vous ne l'avez pas vue ?» Et de ses filles, les unes riaient, les autres se détournaient en haussant les épaules. Mais lui était de plus en plus dans les fumées du vin, tandis qu'il cherchait dans toutes ses poches, avec ses mains noires, sa pipe, ne la trouvait pas, l'oubliait. Puis se fâchait contre sa pipe qu'il se mettait à chercher de nouveau. Heureusement que Follonier était de bonne humeur et veillait sur lui, faisant la monnaie à sa place. Et puis, vers les 2 heures, l'avait pris par le bras. Ils avaient eu de la chance. Ils avaient eu d'abord la nouvelle occasion d'une camionnette qui les avait menés jusqu'au pied de la montagne, de l'autre côté de la vallée. Là, celle d'une autre voiture qui montait jusqu'à mi-chemin de Saint-Martin-d'en-Bas. Il ne leur restait plus qu'une heure pour y arriver. Et Follonier tenait toujours Arletas par le bras, tantôt le tirant en avant, tantôt l'empêchant d'aller de côté, parce qu'il n'était plus bien solide sur ses jambes. Arletas parlait tout le temps, se désolait au sujet de son champ, se reprochait de l'avoir vendu, puis n'y pensait plus, pensant à sa fille. Puis, s'adressant aux sapins qui bordaient la route, il leur disait « Je suis seul ». Puis c'était aux corbeaux qu'il tenait un discours. Il leur disait « Je suis tout seul dans la vie ». Et maintenant, on ne savait plus à qui il s'adressait, parce que les corbeaux étaient rentrés dans l'épaisseur des bois. « Oh, c'est pas gai, » disait-il. Mais heureusement que ça tire à sa fin. Bonjour, disait-il. Ou bien, si c'est bonne nuit. Bonjour, les lampes. Car elle venait d'apparaître dans le lointain aux fenêtres de Saint-Martin-d'en-Bas. Et qui êtes-vous? Disait-il. Mais vous vous éteindrez bientôt. Voilà tout. Toutes, c'est comme nous.
Tais-toi, disait Follonier.
On arrive.
« Voleur !» disait Arletas.
Et puis, « Hein ? Si c'était possible, elle serait là, dit, et pas toi. Tu es trop laid, tu es trop gros, tu es mal mis, dit, si elle revenait. J'aurais été la chercher. Elle aurait fait une moitié du chemin, moi j'aurais fait l'autre moitié. Et on voit de loin que c'est elle, rien qu'à sa façon de tenir la tête. »
« On y est, » disait Follonier.
Arletas s'est mis à pleurer. Il a ôté le bas de femme qui lui entourait le cou parce qu'il avait trop chaud. Il riait parce qu'il avait vu la lumière de l'auberge. Il s'était remis à pleurer. Et de devant la porte, il appelait le monde. Vers les 5 heures du soir, à Saint-Martin-d'en-Bas, disant « Venez, venez tous, c'est moi qui paie. J'ai de l'argent, j'en ai trop. Car combien de temps ça va-t-il durer ?» Hé, Follonier, où es-tu? Voyez-vous, c'est un voleur. Mon champ des ampères. Eh bien, disait-il, c'était un beau champ.
On l'avait fait entrer.
Qui est-ce qui dira le contraire? Le plus beau champ du pays. Une pose, et d'un seul tenant, en belle exposition, tout près du village. Une pose de bon seigle hâtif. Eh bien, savez-vous ce qu'il m'en a donné?
Voleur, où es-tu?
On accourait. Il a dit « Entrons, c'est moi qui paie. Hé, Follonier !» mais Follonier avait disparu, ce qui avait fait rire Arletaz. Et pour vous donner confiance, voilà qu'il tirait de sa poche tous les billets qui y étaient, près de 900 francs en petites coupures, ce qui faisait beaucoup de morceaux de papier. Il les tenait à la poignée. « Hardi !» disait-il. « Allons-y, il n'y a plus que 15 jours. Vous êtes combien? Comptez-vous. Hé, patron, 10 litres !» Aux environs de minuit, le patron, qui était en train de fermer son établissement, avait été à l'écurie. Et là, donnant un coup de pied dans les jambes de la vache, donnant un autre coup de pied dans le ventre du mulet, il avait fait une petite place à Arletaz, entre la vache et le mulet. Chapitre 8. Quant à Maitrier, il s'était dit « Il faut que j'en aie le cœur net !» Car depuis la mort de son père, il ne pensait plus qu'à une chose, et qui était quand Zévui devait avoir jeté un sort au vieux. « Mais je vais aller trouver en Zévui, et il faudra bien qu'il me dise ce qui en est. » Il s'était mis en route un peu après midi. Sur le chemin, il avait rencontré Brigitte, qui justement rentrait chez elle. « Où vas-tu ? » lui avait-elle demandé. Il ne lui avait rien répondu. Et elle, tournée vers lui qui passait devant elle, « Ne te tourmente pas, voyons, Maitrier, tout va bien. Mais lui, écoute, ne le tourmente pas non plus, parce qu'il baisse. J'ai donné un coup de balai. Tu le trouveras sous ses plantes. Fais doucement. » Maitrier ne l'écoutait pas. Il a heurté à la porte, il entre. Il voit le feu, il y a un bon feu. Anzévui est assis dans son fauteuil de paille, avec un vieux traversin dans le dos. Sa tête va en avant à cause de son poids, sa barbe traîne sur ses genoux. « Qu'est-ce que tu veux ?»«
Je voulais vous voir. »«
Eh bien ?»«
Et puis vous parler. »«
Eh bien ?» dit Anzévui. « Assieds-toi. » Il tousse. Les plantes étaient attachées par leurs racines aux poutres et pendaient, la tête en bas, comme des chauves-souris. Devant Anzévui, il y avait une table. Sur la table, il y avait le livre. Il était recouvert d'un parchemin marbré de rouge, comme certains savons dont on se servait autrefois pour les lessives à la fontaine. Maitrier disait « Voilà, est-ce vous ?»«
Quoi ?»«
Oui, » disait Maitrier, « vous êtes venu et il est mort. »
« Et toi ?» disait Anzévui. « Est-ce que tu ne mourras pas aussi ?»
Maitrier s'était tu un moment, ayant besoin de réfléchir. Il avait recommencé.
« Mais peut-être qu'il ne serait pas mort si vous n'aviez pas été là. Il disait que vous alliez le guérir, et Revaz me disait aussi que vous lui aviez guéri le genou. »
Il a obéi.
« Oh !» disait Maitrier. « Je sais bien qu'il n'allait pas fort et que le médecin ne lui avait rien pu. Mais on disait que vous étiez plus savant que les médecins. Eh bien, au lieu de le refaire, vous l'avez laissé se défaire. »
« C'était écrit. »
« Mais écoutez bien, père Antoine, parce qu'ils prétendent aussi que vous allez arrêter la lune et les étoiles et que le soleil ne reviendra plus. Alors je me suis dit que, si vous avez pouvoir sur les astres, vous en aviez d'autant plus sur les hommes, et que vous pouviez aussi bien les faire mourir que les remettre en santé. »
Anzévui a dit « C'est pas moi, c'est dans le livre. »
Il tousse. Et de nouveau il baisse la tête, ce qui entraîne sa barbe, qui ruisselle sur sa poitrine comme une mince épaisseur d'eau sur un lit de débris d'ardoise.
« Moi, j'obéis, je ne fais que lire ce qui est écrit. J'ai vu que ton père avait fait son temps. Il était comme un homme qui s'est accroché à un buisson pour ne pas être emporté par l'eau. Je lui ai dit « Lâche tout !»
La flamme du feu était sur sa figure. Et ensuite n'y était plus. Alors il y avait de l'ombre autour de ses yeux, comme il y a de l'eau dans les creux d'une pierre. Maitrier n'a plus rien dit. Anzévui ne disait rien non plus. Puis Anzévui tous. Et Maitrier alors.
« Ah, c'est que j'y ai été !»«
Où ?»«
Sur la montagne, au grand dessus. »«
Quoi faire ?»«
Voir si le soleil n'y était plus. »«
et il y était bien encore, mais...
C'est que ça balance.
On s'est vus tous. C'est pas moi, c'est dans le livre.
Il l'a pris sur ses genoux, pendant que la flamme du feu baissait, baissait encore comme si elle allait s'éteindre. Et lui, j'y vois plus, m'étrayer, mais du bois.
Il y avait du bois de fagot empilé au pied du mur.
Mais-y de la brindille d'abord, et puis des gros rangs qui tiennent le feu.
On le voit alors tout entier, avec les grosses rides qu'il avait sur le front, ses longs cheveux, sa barbe blanche, ses petits yeux qui étaient clairs, comme si on venait de les laver dans de l'eau fraîche. Et s'étant mis à tourner les pages du livre,
« C'est là-dedans. Laisse-les rire, s'ils veulent rire. On va être comme la lune, qui n'a qu'un côté qui voit clair. Nous, on sera du mauvais côté. »
« Il était rouge !» disait Cyprien. « Il était comme une tête coupée. Il y avait plein de sang autour. »«
C'est qu'il va finir. Il y aura balancement, et nous autres, on ne le verra plus. » Parce qu'on va être du côté de la terre où il fera nuit tout le temps.
C'est quand?
Bientôt. Tu vois, c'est là. J'ai fait le compte. Ça fait 37.
Il lui montrait la page où des lettres noires étaient sur deux colonnes, et il y avait une grande marge dans laquelle beaucoup de signes et des chiffres imprimés à l'encre rouge se voyaient. La lune, le soleil, les signes du zodiaque.
J'ai compté, recompté et compté à nouveau, puis compté encore une fois. Ça fait 37, puis ça fait 4, et puis ça doit faire 12 ou 13, ce qui est justement la date où le soleil doit revenir pour nous. Eh bien, il ne reviendra pas. Et au lieu qu'il fasse plus clair ce jour-là, il fera plus sombre encore, et toujours plus sombre. La modification des axes. « C'est que la terre tourne en l'air, » disait-il. Et puis il a été essoufflé.
« Et puis elle ne tournera plus. Elle tourne de deux manières encore pour le moment. Elle ne tournera plus que d'une.
Et puis ?»«
Et puis il fera nuit. Il fera nuit pour nous. Il faudra allumer les lampes tout le jour. Il fera froid, toujours plus froid. Qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui ?» 3 ou 4 sous zéro, et au commencement d'avril, on a 4 au-dessus d'ordinaire. Eh bien, disait-il, il fera -10, et puis -20. L'eau sera comme de la pierre, les sapins se fendront en deux, on cassera le fromage à la hache, le pain deviendra dur comme une meule de moulin.
C'est alors que Métrier commença à avoir peur. Il considérait Anzévui qui respirait avec difficulté. Anzévui a ouvert la bouche. Anzévui tous encore. Puis, la flamme ayant baissé de nouveau, ses yeux sont devenus comme les yeux d'un mort. Il avait fini par reprendre son souffle.
« C'est ainsi. »«
Eh bien, » disait Métrier, « mon pauvre père, alors, il a bien fait de s'en aller. »
Il a obéi.
Et nous autres, qu'est-ce qu'il nous faut faire?
Il vous faut obéir aussi.
C'est tout?
C'est tout.
Anzévui a ôté le livre de dessus ses genoux parce que c'était un gros livre et que le poids le fatiguait. Il y avait dedans tout le passé, tout le présent, tout l'avenir. Ça fait lourd. C'était au mois de février. C'était même déjà le 25 février. Métrier avait pris congé d'Anzévui. C'était le temps où, dans les pays plus favorisés, les premières fleurs s'ouvrent, et il y en a même de ces pays où la vigne pleure déjà. Là-bas, où est le fils Revaz, sur ses murs tournés au midi, peut-être qu'il fait un beau soleil, et il y a des grappes jaunes ou violettes qui pendent dans les fentes de la pierre. Il fait bleu au-dessous de vous, il fait bleu en face de vous, il fait bleu au-dessus de vous. Il y a 3 espèces de bleu. C'est l'eau, la montagne et le ciel. Dans ce premier printemps, pensait-il, quand le ciel enfin s'est fendu en deux,
et il y a dans l'angle d'un mur, bien à l'abri, un petit pêcher de plein vent qui est comme un peu de ouate rose, celle qu'il y a sous les boucles d'oreilles qu'on achète à sa bonne amie. Moi, je n'en ai plus, ça ne fait rien. Mais est-ce que ce sera pour eux là-bas comme pour nous? Est-ce que ça s'éteindra pour eux aussi en une seule fois, tout à coup? Parce qu'à présent, ils sont au moins dans le soleil et s'en réjouissent, dans la lumière et en pleine lumière, dans les couleurs, dans toute espèce de couleur. Nous, c'est noir et gris. Nous, pendant 6 mois, c'est noir et gris. Pour nous, du milieu d'octobre au milieu d'avril, rien ne change. Il levait la tête. Ni en haut, ni en bas, et dans le milieu non plus. Ça baissera, avec une pauvre lumière, et il n'y aura plus de lumière du tout, et il n'y aura plus rien nulle part. Et regardant les maisons du village, il n'y aura plus eux, pensait-il, il n'y aura plus moi, il n'y aura plus nous. À ce moment, il vit une petite fille qui était agenouillée devant une croix de bois. Cette croix se dressait dans l'angle que forme le sentier qui conduit chez Anzévui avec le chemin du village. Elle était supportée par un soubassement de pierre. La petite fille l'avait débarrassée de sa neige avec le coin de son tablier, puis s'était mise à genoux. De plus près, Métrier avait vu que c'était la petite Lucienne Aimonée. Elle avait peut-être 8 ans, mais elle portait déjà des jupes longues comme une femme. C'était une vraie petite femme. Elle avait, comme les femmes, un fichu noir sur la tête, un châle noué autour de la taille, des gros souliers à clous, comme les femmes de là-haut. Elle ne l'avait pas vu venir. Métrier s'était arrêté, il se disait « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» Et il avait attendu qu'elle se fût relevée pour la rejoindre. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te mouiller !»«
Que non » dit-elle.
Il y avait seulement comme un peu de farine sur son tablier à petits carreaux. Elle l'a brossé de la main. « Vous voyez, c'est déjà parti !» C'est qu'il faisait froid encore, et la neige était aussi sèche que la poussière des routes sur les objets qu'elle recouvrait autour de vous. Seules les mains de Lucienne étaient humides, rouges et couvertes d'engelures. Mais les mains des petites filles en ont l'habitude, là-haut. Et Métrier lui disait encore « Je t'ai dérangé ?»«
Que non, je ne savais même pas que vous étiez là. »
Ils marchaient l'un à côté de l'autre. Tout à coup, Métrier lui a demandé « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?»«
Oh oui. »«
Qu'est-ce que c'est ?»«
C'est ma tante Justine. »«
Est-ce qu'elle est malade ?»«
Non, pas elle, mais elle a un bébé et elle est inquiète à cause de lui. »«
Pourquoi ?»
Parce qu'il est tout petit et qu'elle dit qu'il va mourir.
Ah, dit Métrier.
Elle dit que nous allons tous mourir parce qu'il n'y aura plus de soleil. Elle dit que ça n'est pas juste et que si c'est juste pour les vieux et les hommes et les femmes d'âge, ça ne l'est pas pour les petits-enfants qui n'ont encore fait de mal à personne.
Alors, dit Métrier, tu es venu prier le soleil.
« Oh non !» dit-elle.
« C'est dommage, c'est pas le moment. Ça n'est pas le temps qu'il faut pour ça, » continuait Métrier. « Il se cache, le soleil. Il ne t'a pas vu. Il n'a pas pu t'entendre. On ne sait même pas où il est aujourd'hui, tellement il y a loin de lui à nous. »«
Voyons, » disait-elle, « c'est pas le soleil. »«
Et qui c'est ?»«
C'est le bon Dieu !»
« Ah,
oui, dit-elle, parce que c'est le bon Dieu qui commande au soleil. Il fera bien revenir le soleil s'il veut, lui. Et il voudra bien, n'est-ce pas ?»
Tout à coup, Métrier s'était senti délivré. Il se sentait léger de corps. Il se disait
« À quoi est-ce que je pensais? J'avais perdu la tête. C'est le mauvais temps qui vous donnait ces idées. C'est Anzévui. » C'est d'être enfermé sans rien faire tout le long du jour. C'est les femmes parce qu'elles sont portées de nature à croire tout ce qu'on leur raconte. C'est les vieux parce qu'ils sont malades.
« Bien sûr, » a dit Isabelle. Elle éclata de rire en renversant la tête.
le dessous de son menton bougeait comme la gorge du pigeon, car il la voyait de bas en haut. Il avait continué son chemin. Il passait justement devant chez elle. Elle, elle était sur le perron de sa maison, et lui, au-dessous d'elle, étant au milieu du passage. Elle éclatait de rire parce qu'elle lui avait dit « D'où venez-vous ?» Et lui avait dit « De chez Anzévuy. » « Bien sûr que non, c'est des histoires de vieilles femmes. Mais montez un moment vous mettre au chaud. Je suis seule. C'est mon mari, mon vieux fou de mari. Où est-il ? Il a été chercher du bois. Il fait comme Brigitte. Il me dit « Elle a raison, c'est une femme prévoyante. » Il est parti avec Jean et la luge pour en chercher. Métrier était entré. Il faisait bon. Il y avait un fourneau. C'était un ménage bien monté et à la nouvelle mode. C'était neuf, c'est une maison neuve. C'était en beau bois de mélèze, passé au vernis qui brillait, avec des nœuds comme des yeux, des veines comme sur un bras d'homme. Isabelle avait allumé l'ampoule électrique qui pendait au-dessus de la table dans un abat-jour en papier rose finement plissé. « Croyez-vous qu'il soit bête tout de même, ce pauvre Augustin ?» « Mon pauvre mari. Mais il ne veut rien entendre. Il dit « On ne sait jamais. » Et Jean ? Oh, ça le fait rire, mais il a bon cœur. Et puis, vous comprenez, il est le cadet. Et puis, vous comprenez, il n'est pas majeur. Ils ont fait déjà 6 voyages. » Elle disait « Il vous faut toujours boire un verre. Ils ne vont pas tarder à être là. » Elle avait été remplir à la cave un litre en verre blanc qui laissait voir la couleur que le vin avait, et c'est une couleur qui se reconnaît vite. Métrier avait montré le litre du doigt. « Eh bien, disait-il, le soleil, est-ce qu'on ne dirait pas qu'il est revenu ?» Le vin est beau à regarder, c'est un commencement. Puis voilà, à présent, qu'il regarde Isabelle. « Et vous aussi, vous êtes belle à regarder. » « Et vous nous l'avez conservé, vous aussi. Vous avez bien fait. »« Oh » dit-elle, « c'est que je l'aime. »« Vous avez bien fait, voyez-vous, et c'est bon de l'avoir de nouveau devant soi, sans quoi on perdrait l'espérance. » Il la regardait. « C'est que vous prenez bien le soleil, » disait-il, « et moi pas. Vous, il vous dort, moi il me brûle. » « Eh bien, c'est peut-être qu'il y en a qu'il aime et qu'il y en a qu'il n'aime pas. »« Moi, je reste gris comme un caillou, ou bien je deviens rouge comme une écrevisse. Moi, j'ai la peau qui se fendille comme la terre des jardins. Vous, ça vous mûrit, ça vous arrondit. Moi, ça me sèche, ça me creuse. Et pourtant, Dieu sait, disait-il, s'il me connaît bien le soleil, depuis le temps qu'il me voit circuler tout près de lui, là-haut, parmi les rochers, et sur la neige, et sur la glace, et sans ombrelle. Mais peut-être que vous avez raison, peut-être qu'il a ses préférences. Ah, mais c'est que nous, dit-elle, on est dans les prés, nous c'est les foins, nous on manie le râteau et la fourche, nous on est dans le verre, disait-elle. « On est parmi les sauterelles. Ils nous regardent par-dessus les sapins. »« Oh, il n'est pas aimable avec toutes les filles. »« Moi, je ne fais semblant de rien. » Il me dit « Ah, c'est toi ?» Je lui dis « Oui, c'est moi. » Je lui tourne le dos. « Alors il vient. Il vous chatouille. C'est pour vous dire qu'il est là. Les bras, les épaules, le dos. » Elle était assise sur la table. Elle lui parlait par-dessus l'épaule. « Nous, on ne lui demande rien. On ne prend que ce qu'il nous donne. C'est pourquoi il nous veut du bien. » « Et nous, peut-être qu'il nous veut du mal ?» disait Métrier. Elle montrait ses dents qui brillaient sous la lampe. Elle a montré le bout de sa langue avec laquelle elle se mouillait les lèvres, tout en baissant la tête comme une petite fille qui a de la timidité. « C'est pourquoi vous avez eu peur. Oh, vous n'êtes pas le seul. Mais vous, vous n'avez plus peur, ou quoi ? On n'a plus peur quand on est avec moi. Santé, Métrier !» Car elle avait son verre à elle, qu'elle lève, et pendant ce temps s'appuyer sur la table de l'autre main.
Car c'est bientôt fini, bientôt on saura à quoi s'en tenir, et eux aussi, les pauvres.
Qui est-ce? Eh bien, Denis Revaz, sa femme, Brigitte, Justine et Monet, Morand, Lamont. Elle dit, et Augustin, et puis Arletaz, parce qu'il boit tout.
Il a de quoi?
Bien sûr, il a vendu son dernier champ à Follonier.
Ah, oh, Follonier, c'est un malin.
Un tout malin, dit-elle, parce qu'il l'a eu pour la moitié de sa valeur, ce champ, vous comprenez? Et lui, le pauvre, tous les soirs il faut qu'on le rapporte chez lui, parce qu'il dit qu'il faut qu'il se dépêche, il ne veut pas laisser de l'argent.
À qui?
Elle dit, au diable, et qu'il n'a que le temps. Et Pralon ne dit pas non. Puis elle s'était remise à rire.
Il ne faut pas faire des enfants si on n'est pas capable de les garder.
Qu'en pensez-vous, Maîtrier?
Puis tout à coup, il ne faut pas prendre femme si on ne sait pas.
Puis tout à coup se tait, et est assise sur la table, sous la lampe à abat-jour rose, où elle montre tour à tour sa nuque, qui est belle à voir, son chignon plein de reflets bleus, tour à tour le contour pelucheux de sa joue, ou dans le coin de sa paupière son œil qui semble frotté d'huile.
Il l'aimait bien pourtant.
Elle parlait à présent d'Arletaz. Seulement il ne savait pas bien aimer. Il faut savoir. Et nous autres, les filles, ce n'est peut-être pas de cet amour-là qu'on a besoin.
Oui, un amour de cette espèce.
Il n'a pas su. Elle était un peu plus âgée que moi. Elle avait bien 3 ou 4 ans de plus que moi. Quel âge pensez-vous que j'ai, Maîtrier?
Les mains à plat sur la table, sous la lampe, un soir que la nuit commence à venir, bien qu'elle vienne déjà plus tard.
Je n'ai même pas 19 ans. Peut-être que je me suis mariée trop jeune. Augustin, lui, il a 23 ans. Il a 4 ans de plus que moi. Il a juste l'âge de la fille d'Arletaz.
Oh, je me souviens bien d'elle. Elle s'appelait Adrienne.
Et on était encore des petites filles, et elle une grande fille, mais elle nous disait « Je m'ennuie ».
Et on lui disait « Pourquoi est-ce que tu t'ennuies ?»«
Parce que c'est trop petit ici. »
Écoutez, Maîtrier, vous qui êtes un homme raisonnable, est-ce que vous trouvez que c'est trop petit ici? Est-ce que vous trouvez qu'à 23 ans on soit vieux?
Mais il s'est fait un bruit devant la maison. C'était un bruit de pas assourdi qu'accompagnait un sifflement léger, les glissoires de la luge chargée dans la neige. Maîtrier a été regardé par la fenêtre. Mais elle, elle est restée assise sur la table jusqu'à ce qu'ils fussent venus, ayant rentré leur charge de bois dans le bûcher. Et Augustin était maigre et pâle, avec des cheveux plats et rares. Jean, tout brun, les joues rouges, les yeux vifs, les cheveux frisés. On voyait qu'Augustin était inquiet. Il a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?
C'est ça, vous buvez, et nous on s'éreinte. Vous êtes au chaud ? Vous vous reposez ?
Nous on est à la fois gelés et en sueur. On a la chemise qui nous colle au dos et on ne sent plus le bout de ses doigts. »
Elle a dit « Jean, va chercher le verre. »
Elle était restée où elle était. Augustin, lui, s'est laissé tomber au bout du banc, puis va en avant avec le haut du corps, les coudes remontés, en secouant la tête. Et comme Maîtrier lui disait
« D'où viens-tu comme ça ?»«
D'où je viens? Est-ce que ça se demande? On n'a plus que 15 jours. Va demander à Brigitte où elle en est de sa provision. C'est qu'elle s'y est prise à temps, elle a su faire.
C'est qu'il en faudra du bois, hein, si on veut tenir le coup. »
Chapitre 9. Ce matin-là, avant 10 heures, il était déjà assis devant sa chopine vide. Il tapait avec le cul du verre sur la table. La grosse Sidonie arrivait. Et la grosse Sidonie allait lui remplir sa chopine, puis inscrivait sur une ardoise le montant de la consommation. Ce qui faisait, le soir venu, un beau total, parce que tout le monde depuis quelque temps buvait sur le compte d'Arletaz. Mais c'est lui qui l'avait voulu. Il tirait tout un paquet de billets de sa poche.
Il faut m'en débarrasser, sans quoi j'en laisserai. Et à qui servirait-il ?
À la nuit ?
À rien du tout. À plus personne.
C'est que la saison s'avance. C'est que les temps seront bientôt là. Moi, j'attends. Il était seul. La TSF ne fonctionnait pas. Ce n'était pas encore le moment où la salle à boire se remplit. Lui est là, assis, et laisse les choses se faire, sans rien dire, sans bouger, allumant de temps en temps sa pipe, la laissant s'éteindre, puis la rallumant à travers le couvercle de laiton percé de trous qu'il oubliait de relever. Et ses doigts tremblaient tellement que la flamme se promenait tout autour du fourneau sans jamais réussir à se fixer dessus. Follonier est entré.
« Bien, comment ça va ?»
Follonier s'assied en face d'Arletaz. Arletaz n'a pas répondu. Follonier est de bonne humeur.
« Tu as de la chance, Arletaz. Tu as fait une bonne affaire. »«
Voleur !»
Et en même temps, Arletaz tape avec le cul de la bouteille sur la table.
« Encore une !» dit-il. « Et un verre !»
C'est comme ça que ça allait. À mesure que les temps s'approchent, on buvait davantage chez Pralon. Et à crédit.
« Voleur !» disait Arletaz.
« On le sait !» disait Follonier.
« Eh bien, je te dis voleur quand même. Un chant qui me venait de ma mère. Et pas seulement de ma mère, mais du père de ma mère. Et puis du père du père. »
Mais il s'embrouillait.
« Le plus beau chant de la paroisse, le plus plat, le mieux exposé. Et sans le plus petit caillou, tu sais, tellement il avait été trié, motte à motte, à la main.
Enfin, puisque c'est fini, parce que c'est fini, ou quoi ?
Bien sûr que c'est fini.
Alors il faut boire.
Est-ce que tu as été au Bouvray, comme tu disais que tu voulais le faire ?
Au Bouvray ?
Chercher ta fille, tu ne te souviens pas ? Tu disais que tu avais déjà été partout, sauf de ce côté-là.
C'est plus la peine, puisqu'on va se revoir, disait Arletal.
Parce que le soleil, dit donc, ce n'est pas seulement pour nous d'ici qu'il va s'en aller, pas seulement pour nous de Saint-Martin d'en haut, qu'en dis-tu, mais pour tout le monde.
Follonier hochait la tête.
Pour ceux de Saint-Martin d'en bas aussi, hein, et ceux de la vallée aussi, et ceux du bord du lac.
Bon, alors.
Alors ? Alors, pour elle aussi, on se reverra quand même, Adrienne et moi.
Oh, dit-il, ce sera bien le moment.
Mais alors, à quoi bon courir ?
Des garçons étaient entrés, des jeunes, et Pralon lui-même,
puisqu'on va se retrouver.
Il s'était mis à boire. Ils regardèrent le Taz. Sa barbe et ses cheveux avaient encore poussé, et à mesure qu'il poussait, comme dans un encadrement, sa figure au milieu devenait plus petite, plus réduite, et était plissée comme une pomme à la fin de l'hiver. Il portait toujours ses deux vestes l'une sur l'autre, mais les manches de celle de dessus, étant ouvertes sur le côté, pendaient de chaque côté de ses bras, laissant voir celle de dessous. De sorte qu'il semblait avoir mis des manchettes brunes, étant lui-même en habit noir, comme pour des espèces de noces. Mais sans col, et peut-être bien sans chemise, ou bien avec des lambeaux de chemise. Mais il ne savait pas lui-même, parce qu'il ne se déshabillait plus depuis longtemps. Et les hommes le regardaient, mais lui ne regarde personne. Il regarde quelque chose à travers vous, comme si vous étiez en verre, sans vous voir.
« Ça sera bien le moment, » disait-il.
Puis il s'est mis à se sourire à lui-même, ou s'il sourit à ce qu'il voit. Il demande
« Comment est-ce que ce sera ?»«
Ça sera beau, » dit Follonier.
Ils étaient tous autour de lui.
« On sera changé ?»« Bien sûr, et pas seulement changé, mais transfiguré. »«
Transfiguré, ça veut dire qu'on n'aura plus la même figure. »«
Oh, » dit-il, « elle n'aura pas besoin d'en changer. »
« C'est toi qui en changeras. Tu seras jolie à regarder.
Et dis donc, Arletal, tu seras jeune. »
Et un des garçons,
« Vous serez rasé. » Un autre, « Vous serez tondu. »
Un autre, « Bien habillé. »
« Voyons, voyons, » disait Follonier. « Et vous autres, allez-vous être sérieux ou quoi ?»«
Écoute, Arletaz, tu te rappelles bien ce qui est dit dans les Écritures. C'est qu'on sera ensemble au ciel une fois, les uns et les autres, pour toujours. Tu as raison, tu la retrouveras. »
Mais on voyait qu'Arletaz était un peu inquiet. Il a dit, « Comment est-ce qu'on fera pour se reconnaître ?»«
C'est la lumière, » dit Follonier. On a vécu longtemps dans l'obscurité, et tout à coup il y aura la lumière, une bien plus grande lumière qu'il n'y en a jamais eu ici. On sera refait par elle, renouvelé, et porté par elle les uns vers les autres.
Et puis il y a les anges, dit Lucien Revaz.
Bien sûr, disaient les garçons.
Le soleil, tu comprends, notre soleil à nous.
Eh bien ce n'est rien, il a des taches. C'est un commencement de soleil, un essai, une imitation, un faux soleil, rien de plus.
Et parce qu'il voyait bien qu'Arletaz était déjà dans les vapeurs du vin et qu'il n'y avait plus à se gêner avec lui,
« Quel âge avez-vous ? »
« 52. »«
Vous en aurez 20. »
« Et elle, quel âge est-ce qu'elle a ?»«
Elle en aurait eu 23, le 10 mai. »
« Elle en aura 18, parce que c'est le bel âge. Vous serez comme des amoureux. »«
Taisez-vous, les garçons !»
Seulement, Follonier s'était mis à rire lui-même. D'ailleurs, il voyait bien que les garçons étaient partis et qu'il n'y aurait plus moyen de les arrêter. Eux, en effet, continuaient.
« C'est qu'on se souvient bien d'elle, nous aussi. C'est qu'on l'a bien connue, et ce n'est pas notre faute à nous si elle n'est pas restée ici. »
« Qu'est-ce que vous voulez, père Arletaz ? Elle était trop belle. Elle était trop belle pour nous.
Mais là où on sera bientôt, il n'y aura plus de différence. Tout le monde sera jeune. Tout le monde sera heureux. Sur les tableaux... »
Il se poussait du coude sous la table.
« Vous savez bien, ceux de l'église. Eh bien, oui, elle aura des ailes. Elle sera comme un ange. Elle vous reconnaîtra de loin et d'en haut. Et c'est d'en haut qu'elle viendra. »
L'un a dit « Rouge et grise, comme un hoche-queue. »
L'autre « Verte, rouge et jaune, comme un chardonneret. »
Un autre encore « Noire et blanche, comme une pie. » Mais alors ils avaient vu deux grosses larmes qui coulaient lentement sur les joues du père Arletaz comme la gomme sur le tronc d'un pêcher. Il ne disait plus rien, il ne bougeait pas. Et il y avait ces deux grosses larmes qui avaient de la peine à descendre, tellement sa vieille peau était rugueuse et inégale. Chapitre 10. Le père Revaz, lui, avait appelé sa femme. Il était assis devant une espèce de bureau qu'il y avait dans leur chambre à coucher et dont le couvercle, en se rabattant, formait pupitre. Il avait fait asseoir sa femme à côté de lui.
« Écoute. » On ne sait pas ce qu'il va arriver. C'est pourquoi il nous faut mettre nos affaires en ordre. Tu vas d'abord écrire à Julien de revenir. »
C'était celui de leurs deux fils qui travaillait dans le vignoble.
« Écris-lui qu'il s'arrange pour avoir un congé de quelques jours. »«
Oui, » dit-il, « j'aimerais qu'il soit là, si jamais ça tourne mal. » Le père Revaz avait mauvaise mine, bien que son genou fût guéri. Il était gris de teint, trop gros, les joues molles et salies de barbe.
« Ah » reprenait-il, « a-t-on pourtant travaillé, ma pauvre femme ? S'est-on pourtant levé d'assez bonne heure le matin, l'été, et assez couché tard, dis donc, ce qui faisait bien 15 heures de temps ? Et a-t-on assez couru les chemins, dis donc ? Combien de fois dans l'année, d'ici aux Mayens et d'ici aux vignes d'en bas ? Et justement, c'est au moment où on aurait pu commencer à profiter de son travail. Dommage. »
Elle le considérait avec étonnement. Elle-même, grosse et pâle, ne l'ayant jamais entendu parler si longtemps. Mais il avait rabattu le couvercle du secrétaire.
« Enfin, c'est entendu que tu écris à Julien tout de suite. »
« Et il y a Alphonsine. »
C'était leur fille.
« Mais elle est mariée et il faut la laisser avec son mari. on sera les quatre. On sera ensemble et pour le reste, tout est en ordre. J'ai partagé l'argent en trois. »
Il a ouvert un tiroir. Il en a tiré trois paquets ficelés, sur chacun desquels il avait écrit le nom d'un de ses enfants.
« J'ai fait à chacun sa part. Il n'y aura pas besoin que la justice s'en mêle. Quant à la maison et aux terres, tout est noté là-dedans. »
Il a sorti du tiroir une enveloppe jaune où on lisait « Dernière disposition ».
« C'est pour que tu saches ce que tu auras à faire, si c'est moi toutefois qui m'en vais le premier. »
« Mais puisque, disait-elle, on s'en ira tous ensemble, ou bien... » Elle hésitait.
« Ou bien personne ne s'en ira. Ça n'est pas comme si tu étais malade.
Voyons, Denis, est-ce que tu y crois ?
On ne sait jamais. Tu as fait des provisions ?
Oh, dit-elle.
« Oui, on a du beurre pour 3 mois et du fromage pour 6 mois. Et j'ai fait faire du pain pour 8. » On a 3 jambons, 30 paires de saucisses, 25 saucissons, 18 kilos de sucre.
Elle réfléchissait.
Un bon sac de polenta, et il y a du foin de quoi nourrir les bêtes jusqu'au mois de juillet.
Ça va bien, disait-il, parce qu'on ne pourra plus circuler.
Circuler?
On ne pourra plus sortir de chez soi.
Pourquoi?
Parce qu'il fera nuit et qu'il fera trop froid.
« Qui est-ce qui t'a dit ça ?»«
C'est Hans et lui. Parce que jusqu'à présent, il y avait la nuit, mais il y avait le jour. Jusqu'à présent, il pouvait faire sombre, mais ensuite il faisait clair. Et il n'y aura plus que la nuit, et puis la nuit, et puis la nuit. Et il fera d'abord 8 degrés au-dessous, puis 15, puis 20 degrés.
Tu as assez de bois ?»«
Voyons, dit-elle. « Tu sais bien, on ne sait plus où le mettre. Il y en a des piles contre tous les murs de la maison. »«
Savoir si on pourra aller les prendre. »«
Il y en a plein le bûcher, plein la remise. »«
Il te faudra en faire un tas dans la cuisine, c'est plus prudent. »«
Et puis encore, prépare-nous des habits chauds. »« Tout ce que tu pourras nous trouver en fait d'habits, et on les rajoutera à mesure les uns par-dessus les autres. »
Il a réfléchi encore, puis a dit « Je crois que c'est tout. »
Il n'était même pas 2 heures. Ils avaient déjà allumé la lampe, pourtant la chambre donnait au midi. Et ils sont restés là, l'un à côté de l'autre, sans plus rien dire, pendant que la mère Revaz regardait, sur le couvercle rabattu, où les veines, par une disposition du bois, étaient comme une gerbe d'épis. Tremblaient les grosses mains molles et trop pâles. Pourquoi est-ce qu'elles avaient tellement pâli? À ce moment, on était entré dans la cuisine. Le premier mouvement de Revaz avait été de refermer le secrétaire. Puis il avait pensé « C'est sûrement Lucien ». Il avait appelé « Lucien !» Et lui avait ouvert la porte et regardait avec étonnement son père et sa mère assis sous la lampe devant le bureau. « J'ai mis en ordre mes affaires. » disait le père Revaz. « C'est pour le cas où... Enfin, tu sais bien. »
Lucien disait « Non, je ne sais pas. »«
Eh bien, ça ne fait rien. J'ai fait vos parts. Il y a 3 paquets. Il y a le tien, il y a celui de ton frère, il y a celui de ta sœur. Et j'ai déjà montré où je les avais mis à ta mère.
Mais peut-être que ta mère... »
« Oui, disait-il, il faut toujours compter avec les empêchements. » Et si ta mère... Eh bien, toi, tu sauras. Là, tu vois. » Il lui a montré les paquets. Puis il a dit, « Voilà le tien. Il y a votre nom à chacun dessus. » Il a refermé le tiroir.
« Et pour le moment, qu'est-ce que tu fais ?»«
J'étais en train de réparer la herse. »
« C'est pas pressant, » a dit Revaz. « Tu ferais mieux d'aller faire du bois. »
Mais lui... n'avait pensé qu'à une chose, et c'était « On aura de l'argent. Le père est bien plus riche que je ne croyais. Il ne m'avait jamais parlé de ce qu'il pouvait bien avoir. Mais cette fois, j'ai vu l'enveloppe. Il faut vite que j'aille le dire à Gabriel. » Il avait empoigné sa hache, puis, l'ayant cachée au pied d'un arbre, dans le bois qui borde la route, avait couru à Saint-Martin d'en bas. Non loin du village, il avait rencontré un gamin à qui il avait donné 10 centimes. « Tu sais où habite Gabriel Dussex ? Eh bien, va lui dire que je l'attends, mais tu ne le diras à personne qu'à elle. Si tu fais bien la commission, il y aura encore 10 centimes pour toi. » Le gamin était parti en courant. Et cependant, Lucien se répétait « C'était un gros paquet tout de même. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir dedans ? Des billets ? Mais alors, on sera riche !» Il avait été s'asseoir devant un fenil sur un tas de poutres. D'où il était, on domine Saint-Martin d'en bas. D'où il était, on voit le village, qui est dans son creux au-dessous de vous, semblable, en cette saison, à un fond effondré de glaciers, c'est-à-dire plein de crevasses. « Ça va bien, » disait-il. « Je vais demander à mon père de me faire une avance. Il ne pourra pas me la refuser. Seulement, elle... « Est-ce qu'elle va venir ? Elle doit être fâchée depuis que je lui ai dit qu'on ne pourrait plus se voir comme on voulait. » Mais il a vu qu'elle venait quand même. Il voyait qu'il y a des moments dans la vie où tout change d'aspect par un retournement des choses. Elle était apparue là-bas et s'en venait, marquée en sombre, sur le chemin lui-même marqué en sombre, à cause des patins des luges et du frottement des souliers. Par moments, elle tournait la tête vers le village, puis elle continuait à s'avancer quand même, ce qui a fait qu'il s'est mis debout et lève son chapeau en l'air. « Tu comprends ? » disait-il par avance. « C'est que tout ça, c'est du passé. Viens vite, Gabriel !» Il l'appelait à haute voix maintenant. « Viens vite qu'on t'explique !» Elle, on voyait qu'elle était fine et douce, un peu timide, un peu moqueuse, mince et grande. Elle s'était arrêtée, elle a souri sous son fichu. Et lui ? « Tu es venu quand même, tu n'as pas eu peur qu'on te voie ?»« Oh ! » disait-elle, « pourquoi pas ? Est-ce que je fais quelque chose de défendu ?»« J'avais à te parler. »« Oh ! » disait-il, « les nouvelles sont bonnes. Mais où est-ce qu'on pourrait se mettre pour causer tranquillement ?» Elle avait dit « On n'a qu'à entrer dans le fenil, il est à nous. » Elle avait été prendre la clé qui était cachée sous des poutres. Ils avaient laissé la porte ouverte, ils se sont assis dans le foin. « Tu comprends, c'est que mon père est tourmenté par ces histoires qu'on raconte. Tu es au courant ? Non, ça ne fait rien. Mais enfin, lui ne voulait pas entendre parler pour le moment de ce mariage. Eh bien, tu sais, tout va changer. » « Quand ? Bientôt, dans une semaine ou deux, vers le 12 ou le 13, parce que le père a eu peur. Mais alors il va bien voir qu'il avait eu tort d'avoir peur. Et puis, c'est qu'il a de l'argent. » Elle avait dénoué les pointes de son fichu qu'elle avait rejetées en arrière sur ses épaules. On voyait qu'elle était blonde, avec des cheveux fins et doux, noués en chignon sur la nuque. Elle écoutait sans trop comprendre. « Et lui ? Il faut que je te dise tout. Eh bien, j'y ai cru, moi aussi, pendant un temps. »« À quoi ?» Le foin derrière eux était plein de pétillements. « Est-ce que c'est les sauterelles qui sont restées prises dans sa masse ou les longs fétus élastiques qui ont été pliés en deux et se détendent brusquement ?»« Est-ce que tu connais le père Enzévui ?»« Bien sûr, on va chez lui pour les remèdes. » « Eh bien, c'est un savant. Il lit toute la journée dans des gros livres. Et une fois, il a dit à mon père... il avait fait ses calculs, il les avait faits et refaits, et mon père l'a cru. « Et toi ?»« Et toi ?»« Moi, pas. Mais mon père me disait, « Il vous faut attendre. » Et moi, j'ai fini par me dire aussi, « Il nous faut attendre. » C'est que moi aussi, j'ai eu peur. « J'étais en fille. » Elle a ouvert les yeux tout grands. « J'étais en fille. J'avais emprunté la jupe et le caraco de Sidonie, celle qui est chez Pralon. Tu sais, on était une bande de garçons. On s'était dit qu'on allait faire une farce à Enzévui. Il m'avait dit, « C'est toi qui feras la fille. » J'ai fait la fille, oui, avec de la farine et puis une allumette pour les sourcils. « Tu es fâchée ? Voyons, Gabriel, laisse-moi te raconter. » Parce qu'on arrive, eux s'étaient cachés, et c'est moi qui cogne à la vitre. Eh bien, Il était assis devant son feu. C'était minuit. Je disais « C'est moi, monsieur Anzévuy !» Tu comprends, avec une toute petite voix de fille. Je disais « Monsieur Anzévuy, ouvrez-moi, j'ai besoin de vous !» Je cogne de nouveau à la vitre, et lui, jusqu'alors, avait été assis devant son feu, me tournant le dos, et il était tout noir devant son feu. Mais le voilà qui se lève. Il avait changé de couleur. Il était tout blanc devant moi. C'était sa barbe. Mais alors, moi, j'ai eu peur, parce qu'il était comme un nuage.
« Mais qu'est-ce que tu as fait ?»«
Je me suis sauvée. » Il disait. « Tu comprends, ça dérange. » J'ai pensé. « Ça n'est pas un homme, c'est plus qu'un homme. » J'étais dérangée.
« Et à présent ?»«
Oh, justement, c'est ce que j'étais venue te dire. Moi, je n'y crois plus à ces histoires. Mais mon père y croit toujours. » Alors il a mis ses affaires en ordre. Il a fait 3 paquets. Tu comprends, on est 3. Il y a mon frère, ma sœur, moi. Et tout à l'heure, il m'a appelé. Il m'a dit « Voilà le tien ». Eh bien, je l'ai vu. Il est gros. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça doit être des billets. Et bien sûr que je ne sais pas s'ils sont 2000 ou 250. Mais enfin, il y en a. Il y en a beaucoup. On va pouvoir se marier. Elle souriait. Elle a dit « Mais toi, pourquoi est-ce que tu as changé ?»«
Parce qu'ils se sont moqués de moi. »«
Qui ça ?»« Les garçons, maîtriers, tissières. » »« Et puis ?»«
Eh bien, c'est aussi l'argent cet après-midi. Ça m'a fait plaisir, ça encourage. C'est pas possible que ça aille mal quand on sait qu'on en aura. Tu ne trouves pas ?»«
Oh » dit-elle. « Moi, c'est pas tant l'argent que toi, depuis le temps qu'on ne t'avait pas vu. »«
J'osais pas. J'étais triste. »«
C'est oublié, puisque tu es là. »
Mais lui, qui suivait son idée,
« Moi, n'est-ce pas, je savais bien qu'on avait une maison à nous, des champs, des prés, de la vigne. Je ne pouvais pas ne pas le savoir, puisqu'on les cultive. Mais de l'argent, eh bien, on en aura aussi de l'argent. » On va pouvoir faire les annonces.
Attendons.
Et pourquoi attendre? Enfin, oui, si tu veux, jusqu'au 13, puisque c'est le 13. Mais, dis donc, ne trouves-tu pas que c'est quand même une drôle d'histoire?
Oui, disait-il, le temps qu'il a fait cet hiver. Et bien sûr qu'on ne voit pas le soleil chez nous pendant 6 mois, et chez vous pas beaucoup plus. Mais ce n'est rien. L'affaire est qu'il n'a pas fait beau une seule fois depuis octobre. Il n'a pas fait clair une seule fois. Il n'y a pas eu un seul jour sans brouillard. Alors les vieux, tu comprends, les femmes, les malades, et ce grand fou avec ses livres.
« Oh » dit-elle, « c'est peut-être que ce soleil-là n'est pas seul à compter. Il n'y en a pas qu'un, tu sais. »
« Et l'autre, où est-il ? »
Elle a souri en penchant la tête. Elle a porté sa main sur sa poitrine, un peu à gauche.